Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% full.
Les Brésiliens sont en blanc, Amédi Pelé. C'est un but fabuleux.
On retraite, c'est bien fait.
Allez mon petit bonhomme.
It comes for Cantona! I don't believe it!
La frappe de Neymar!
Quel but!
Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille!
Salut à tous et bienvenue pour un nouveau, une nouvelle émission de la bande à Baggio. On va parler longuement du match de l'équipe de France qui s'est déroulé tout à l'heure avec une victoire très très étriquée, 2-1. On parlera aussi des autres matchs avec notamment l'Argentine et l'Islande. Et c'est peut-être la première surprise de ce mondial avec l'Argentine qui était tenue en échec par l'Islande. On en reviendra tout à l'heure. Avec moi cet après-midi, j'ai Thibaut et Gabi. Salut les gars.
Salut les amis auditeurs.
Bon, allez, on va commencer par le match d'équipe de France. Voilà, donc l'équipe de France qui s'impose 2-1. Mais alors, qu'est-ce que ça a été dur, enfin dur, je sais pas si c'est le mot, mais qu'est-ce que ça a été mauvais. Tiens, Gabi, toi, t'étais à Disneyland pour voir la rencontre. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match?
Ah ouais, je me suis mêlé aux fans pour regarder ce match-là, le premier match de l'équipe de France de la Coupe du Monde. Et les réactions, c'était qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'envie au niveau des supporters. Malheureusement, au bout de 10 minutes, on a eu l'impression que les joueurs jouaient sous un cagnard. Ils ont l'impression que les joueurs étouffaient physiquement, alors qu'on n'avait pas l'air de voir vraiment une grosse chaleur à Kazan. J'ai trouvé les joueurs qui ont eu du mal à enchaîner les passes. Au bout de 15-20 minutes, ont perdu beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme au milieu de terrain. Pogba qui a disparu pendant tout le match jusqu'à son but. Il y a pas mal de choses dont on va parler, je pense. Mais au niveau de l'ambiance et des supporters, je pense que les Français étaient très contents de retrouver cette équipe de France, même s'il n'y a pas la manière, il y a la victoire.
C'est sûr. Et toi, Thibaut, alors, t'en as pensé quoi?
Écoute, les 10 premières minutes quand même ont été encourageantes avec une bonne occasion de Kylian Mbappé qui a bien été servi. Et après, les Australiens ont pris confiance dû en partie à un moment là où le CSC failli avoir un CSC sur une tête de Tolisso qui était bien repoussée par Hugo Lloris. Après, on a été beaucoup trop empruntés. Je veux dire, les trois attaquants avaient du mal à se trouver. Il n'y avait pas de lien entre milieu terrain et l'attaque. J'ai trouvé beaucoup de distance entre les lignes.
Ouais. On a vu une équipe de France être un petit peu surprise par cette défense australienne. Justement, pour moi, les Australiens, ils avaient rien à perdre. Ils ont joué tranquillement. Et franchement, je les ai pas trouvés ridicules, quoi. Par contre, l'équipe de France, ils ont fait de l'équipe de France, quoi, tout simplement. Ils sont dans leur travers qu'il y a eu contre les États-Unis. Un jeu sans fond, des décisions de Deschamps, un peu douteuses. J'ai pas compris certains trucs qu'avait fait Deschamps. Griezmann, qui a pas été très bon aujourd'hui. Bon, il a marqué sur penalty, mais l'équipe de France qui a été suffisante aujourd'hui. Et malheureusement, si ils continuent à jouer comme ils ont joué aujourd'hui, j'imagine très mal de battre le Danemark. J'imagine mal de battre le Pérou. Ça va être compliqué pour l'équipe de France. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va vraiment être compliqué pour la suite, hein.
L'Australie, si tu veux, a joué bas, donc ce qui n'a pas aidé l'équipe de France, au moins, et pas une équipe à faire le jeu, puis une équipe à l'aise pour jouer le contre. Et puis contre l'équipe du Pérou, je ne pense pas qu'ils resteront aussi bas, parce que les équipes sud-américaines, ils vont essayer d'aller chercher très haut. Quand je voyais les Australiens, je n'ai pas vu les Australiens nous presser dans notre camp. Je pense que contre le Pérou, on aura une autre équipe, une autre style de jeu où les Péruviens nous presser assez haut. Et là, je pense que la vitesse des attaquants pourrait être utile pour jouer dans leur dos. Moi, c'est mon point de vue.
Non, mais ce qui est, pour rejoindre ce que dit Thibaut, ce qui est inquiétant, c'est que l'équipe de France, face à une équipe basse, n'a pas réussi à maîtriser la possession de balle autour de la zone défensive de l'Australie. Ils ont joué très très bas, la France aussi, au milieu de terrain. Ils ont été, je veux dire, ils étaient à la zone médiane, de la ligne médiane. Ils n'arrivaient pas à avancer avec le ballon jusque dans les 16 mètres de l'équipe d'Australie. Ils ont joué en contre. Donc finalement, on s'est retrouvé avec un match avec deux équipes qui n'osent pas passer la ligne médiane tout le match, sauf peut-être les 10 dernières minutes pour chaque équipe. Mais j'ai trouvé ça assez inquiétant, moi, par rapport au niveau de jeu qu'on espérait. Mmh. On se retrouve avec une équipe de l'Euro 2016 qui est pratiquement la même, qui joue de la même manière avec un milieu de terrain inexistant. C'est-à-dire qu'on avait Payet en 2016 qui mettait des petits coups d'éclair de génie, parce qu'il faut se rappeler les matchs contre l'Albanie, contre la Roumanie. S'il n'y a pas les frappes de Payet, on fait 0-0, mmh. Il se passe rien du tout. Là, c'est un but de Pogba sur un bel enchaînement avec des 1-2. Je crois que c'est avec Griezmann.
Une remise de Giroud. C'est remise de Giroud. Remise
de Giroud. Giroud qui a fait son job. Hein, il n'a pas joué longtemps, hein, mais
il a été décisif. Hein.
Il a été décisif. Ce qui est dommage, c'est que l'équipe de France, collectivement, il n'y a pas de lien entre les attaquants. Chacun joue pour soi. Il va falloir qu'on parle de Dembélé, parce que Dembélé, il est gentil. Il joue au Barça, ok, mais il joue tout seul. Il joue tout seul.
Bah, c'est vrai que sur le papier, quand tu regardes cette composition, elle faisait envie de voir jouer, quoi. Sauf que là, bah, tu te rends compte que finalement, bah, c'est pas une bonne composition. Je pense que si Giroud avait joué dès le début, je pense que le match aurait pris un autre tournant. Tu vois, il est rentré, il a fait son. Ouais, sûrement. Ouais, tu vois.
Bon, il y a plus de centre aussi, parce que quand tu regardes. Ouais. Est-ce que vous avez compté le nombre de centres pendant tout le match, des latéraux?
Il n'y en a pas eu beaucoup, hein.
Et encore, quand Giroud, à un moment, il y a eu un centre pot pour Griezmann qui était seul devant deux mecs et deux géants. Il n'a pas eu de ballon. Donc, c'était sur les côtés, même si je trouve que Lucas Hernandez, on en parlait tout à l'heure, a fait son match défensivement, même s'il a bien été secoué par les Australiens. Donc, voilà. Mais j'attends mieux au niveau des phases offensives, de débordement, etc. J'attends beaucoup mieux.
Ouais, c'est sûr.
Mais pour toi, Nico, le maillon faible de l'équipe, est-ce que c'est un Pogba, ou parce que Pogba qui fait des interviews à répétition en disant qu'il veut prendre les clés de l'équipe. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a rien fait.
Tout ce qu'il a voulu faire, c'était loupé. Enfin, un moment, je sais pas. Il est tout seul, il a le ballon. Et ben, il s'arrête. Au lieu de centrer, il s'arrête et il se fait chipper le ballon. Enfin, il y a un manque de confiance. Je sais pas ce qu'il a, mais il y a un manque de confiance. Mais pour moi, ça n'a pas été forcément le pire. Hein. Pour moi, je mettrais Dembélé, hein, dans Dembélé, Tolisso, tu vois, dans les deux joueurs qui n'ont pas fait vraiment un bon match. Pogba, bon bah, il a marqué son but. Et encore, vraiment, c'est un but très très chanceux. Et puis c'est Umtiti aussi. Voilà, moi Umtiti, je vais en arriver là. Pourquoi lever les mains quand tu fais une tête? C'est un défenseur professionnel. Je sais pas, mais quand t'apprends le football, bon, moi j'ai jamais joué défenseur, mais le peu que j'y ai joué, on m'a toujours dit, quand tu fais une tête, tu lèves pas les bras. Et lui, il lève les bras et tu passes, le ballon lui touche la main. Donc voilà, penalty très justifié. Et voilà, Umtiti, je sais pas ce qu'il a fait là. Il a, excusez-moi du terme, mais il a chié dans la colle, quoi. Il n'y a pas d'autre mot.
C'est pas mal d'expression.
Ouais, mais...
je vous ai envoyé un SMS en disant qu'au Barça, ça se siffle pas, ça, les fautes de main dans la surface des défenseurs du Barça. Mais ironiquement, c'est un peu vrai, parce qu'au Barça, il y a un espèce de laxisme. Et je pense que, enfin, l'arbitrage est laxiste avec le Barça. Et je pense qu'Umtiti, ça fait 2-3 fois où il nous a sorti aussi une faute dans la surface contre je ne sais plus qui en amical. Il n'avait pas été bon, je crois, aussi contre la Colombie, peut-être. Enfin, il y avait un match qu'il avait foiré comme ça, et puis il avait fait une faute qui paraissait évidente, mais pour lui, c'était une faute normale qu'il a l'habitude de faire en championnat, et jamais ça siffle. Et là, il nous fait une main en l'air, comme un moins de 15. Un moins de 15, voilà, qui débute.
Comme un peu de Thiago Silva, vous vous souvenez, contre Chelsea. Il avait fait même ce même style d'action.
Oui, avec le but d'Hazard après son penalty, là.
C'est ça, là. C'est exactement ça, voilà.
Tu fais pas ça à ce niveau-là. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Alors j'espère qu'il faisait vraiment très chaud et qu'ils n'arrivaient plus à être lucides.
Mais sûr, mais après, on reparlait sur le centre. Après, ils ont parlé sur MC. Après, j'ai regardé l'action. S'il ne met pas la main, il y a deux Australiens qui étaient juste à la retombée. Donc il y avait déjà un gros erreur de marquage. Je ne sais pas des défenseurs centraux, mais voilà. Ouais. Donc,
c'est sûr. Bon, on va revenir au but français, donc sur un penalty. Alors, il a fallu attendre un petit peu pour voir l'arbitre revenir sur une décision, sur sa décision. Et donc, pour la première fois du tournoi, l'arbitre qui utilise la vidéo pour voir s'il y avait faute ou pas. Et effectivement, il y avait faute. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit ça. La France, je me souviens, en 2014, ils avaient aussi la goal line technology, contre le Honduras. Et là, pour la première fois, la France, l'assistance vidéo. Et bon, il y a penalty quand même, hein, c'est indiscutable.
Il est touché, ouais, touché Griezmann.
Donc là, on va pas. Oui, vas-y.
Non, mais je disais, de toute manière, il touche pas là, il touche à aucun moment, il touche là-bas, l'Australien. Et on voit que l'arbitre, il a quand même un doute. Mais tu vois, je trouve que l'arbitrage vidéo, là, il a été super utile sur ce match, dans notre sens. Mais le problème, c'est que, justement, il y a eu un temps de latence au moment où l'Australie remonte le terrain. Il s'est passé peut-être 20, 25, 30 secondes, je sais pas. Mmh. Et c'est quand même beaucoup pour prendre une décision arbitrale.
Exactement.
Imagine, l'Australie est sur une situation de contre sur l'aile, ils sont presque au moment de centrer. L'arbitre arrête le jeu. Il va falloir prendre des décisions plus rapides quand même, parce que si ça vient contre la France à un moment donné, ça va être assez préjudiciable. Hein. Il y aura des soucis, quoi. On va avoir des polémiques pas possibles. Mais l'arbitre a été, je veux dire, intelligent sur l'arbitrage vidéo, mais pendant le match, il a oublié beaucoup de cartons jaunes pour l'Australie. Hein. Pour
moi, l'Australie, ils ont cherché. Ah bah, il s'est fait massacrer. Et puis, tu voyais que les Australiens, ils y allaient pour casser. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein.
Ouais. Ah oui, mais Lucas Hernandez, il s'est fait fracasser dans le bon sens du terme. Je pense que.
Tolisso aussi a pris.
Ouais.
Tolisso a pris aussi au début.
Ça manquait de carton jaune, disons, pour calmer les esprits au bout de 10
minutes. Et puis, un peu de vis, parce que je veux dire un truc, ça aurait été une faute comme ça, un gros coup de coude sur Sergio Ramos. Je pense que Sergio Ramos aura juste un peu plus et un Australien aurait pu être expulsé. Mmh. On aurait dû faire preuve un peu plus de vis. C'est pas beau de dire ça, mais malheureusement, ça aurait peut-être calmé plus vite les Australiens.
Ouais, non, mais c'est vrai que ce match-là, sans la vidéo, tu te retrouves peut-être à perdre 1-0 contre l'Australie, je sais pas. Hein. Mmh. C'est compliqué quand même, hein.
Moi j'ai la note des joueurs français. La meilleure note est attribuée à Hernandez. Il a dit qu'il avait fait un très très bon, enfin un bon match quoi. Ça n'a pas été le pire. Et celui qui a eu la pire note, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Umtiti, Tolisso et Dembélé finalement, tu vois, ils ont à peu près la même idée que moi. Avec que 4 sur 10, quoi, tu vois, donc c'est pas beaucoup. Quoi.
Pas beaucoup, ouais. Non, c'est pas beaucoup. Hein. Mais au niveau de l'intensité du milieu de terrain, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que pour moi, les trois milieux, ils ont été absents tout le match, hein. C'est un gros problème, ça. Hein. Et il va falloir trouver un milieu de terrain pour affronter le Pérou et le Danemark, parce que là,
Le Pérou, moi, je mettrais d'entrée Matuidi, parce que lui, qu'on l'a vu son entrée, il apporte la percussion, et c'est quelqu'un, Matuidi, qui est très intelligent dans le replacement défensif.
Mmh. Tout à fait.
Et j'ai trouvé que les Australiens en sont beaucoup passés, je veux dire, sur le côté. Où généralement, Hernandez s'est retrouvé à faire du pratiquement sur 2-3 actions où les Australiens sont attaqués à 1-2 contre 1. Donc, il a manqué de fermeture. Quoi. Je trouve que Pogba défendait pas assez, à mon goût.
Mmh. Ouais, c'est sûr.
Ça, c'est quand même grave. Hein,
parce que le milieu de terrain, c'est censé apporter une couverture, si tu veux. Comme ils étaient à milieu à 3, mais Pogba était côté gauche, il était censé. Donc, avec Hernandez. Monter, compenser un petit peu. Je sais que on a bien vu quand Matuidi est rentré, l'équipe côté gauche était beaucoup mieux. Il a récupéré quelques ballons et puis Kanté a été meilleur avec l'entrée de Matuidi. Mmh. C'est le truc.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais. Vous espériez pas peut-être faire ressortir un moment Pogba ou
Deschamps? J'ai pensé un moment.
Ouais, bah ouais.
Moi, je l'aurais fait changer dès la mi-temps, moi, tu vois. Franchement, juste pour dire, écoute, là, il y en a marre. Tu fais n'importe quoi juste pour faire comprendre. Tu vois, il a fait sortir Griezmann parce qu'il a pas bien joué du tout. Ouais, OK,
il a marqué. Il l'a dit à la fin. Griezmann.
Ouais, voilà,
en plus. Il l'a dit à la fin.
Bon, il a reconnu après Deschamps, il l'a reconnu aussi, il a dit de toute façon, ça peut être Griezmann ou n'importe qui, s'il doit sortir, il sortira, c'est ce qu'il a fait. Et voilà, non mais bon, d'un autre côté, ça c'est bien, mais je pense que Pogba aurait mérité de sortir à la mi-temps aussi. Alors tu vas me dire, il serait sorti, il aurait peut-être pas eu de deuxième but, hein, je sais pas, mais
on
bon,
pas.
Voilà. Mais peut-être que si, peut-être que ça aurait mieux joué aussi. Hein, tu vois, donc finalement, cette composition, moi j'étais très content avant le match. Et finalement, maintenant, je me dis, bon, ben, je sais pas quelle composition peut aller pour jouer mieux que ça. Je suis quand même vraiment déçu parce que je pense que l'Australie était sûrement l'équipe la moins forte, entre guillemets, de ce groupe-là. Je sais pas ce que ça va donner contre le Pérou et le Danemark, mais moi je suis pas confiant du tout. Hein. Bah ouais, ce sera un autre match, mais.
Mais Pérou et Danemark, on sait à peu près à quoi s'attendre. C'est vrai que l'Australie, elle a beaucoup changé ces derniers temps. Moi je savais pas trop comment elle allait jouer, à part le jeu typique britannique. Mais le Pérou, c'est sûr qu'on va affaire à des joueurs qui sont beaucoup plus techniques, qui vont essayer plus d'avoir essayé le ballon. Et moi je répète que la France est plus à l'aise en jouant contre des équipes qui aiment jouer. Et qui laissera certainement un peu plus d'espace dans le dos.
Donc, c'est sûr, parce que de toute façon, à la fin, tu regardais l'Australie, ils jouaient à 6-7 défenseurs à la fin du match. Hein, donc,
ils n'arrivaient plus à construire.
Voilà, la France n'aime pas jouer contre des équipes qui défendent, quoi. Tout simplement, ils n'y arrivent pas. Et dès qu'il y a un peu plus de jeu, la France peut se montrer assez forte. Mais bon, je ne sais pas quel compo il va utiliser contre le Pérou, mais j'espère qu'il va remobiliser tout le monde et puis qu'il va taper un peu du poing sur la table. Hein, parce que ce qu'on a vu, tu avais l'impression que certains joueurs, ils se disaient « Ouais, c'est l'Australie, ça va être tranquille, ça va être les doigts dans le nez. » Finalement, finalement, ils ont eu complètement tort parce qu'ils sont tombés contre une équipe qui n'a pas été impressionnante, mais qui a fait son job. Quoi.
Bah, c'est des joueurs intelligents qui sont bien placés sur le terrain. Ils savent qu'ils n'ont pas les qualités techniques d'un Brésil, donc ils vont jouer avec leurs valeurs. Un peu comme l'Islande, je pense que c'est le même genre d'équipe. Et finalement, tu te retrouves avec une équipe qui procède par contre toutes les 20 minutes, mais qui ne fait pas grand-chose. Mais quand ils attaquent sur coup de pied arrêté, ils sont très très dangereux. Il y a eu deux, trois coups francs hyper bien tirés de l'Australie, dont un qui a amené le penalty. Moi, je trouve que la France a pas mal à s'inquiéter pour contre le Pérou, parce que comme vous dites, si jamais ils reproduisent la même prestation, ça va être beaucoup plus difficile de gagner avec cette manière-là.
Il faudra mettre plus d'intensité parce que les Péruviens vont en mettre. Hein. Les équipes sud-américaines mettent beaucoup d'intensité. Ouais. C'est une équipe le Pérou qui va rien lâcher de la première jusqu'à la dernière minute.
Bah là, actuellement, il y a Pérou-Danemark. Là, ça se joue actuellement. Bon, 0-0 pour le moment. Il y a le Pérou qui a la possession du ballon, le Pérou peut battre le Danemark. Hein. Faut faire attention à ces équipes sud-américaines. C'est sûr que le Pérou, il se qualifie pas souvent, mais je suis sûr qu'il peut faire quelque chose, quoi.
Moi, le Pérou va sortir du groupe pour moi. C'est plus le Danemark où j'ai un doute avec la France.
Bah, ça va être France et Danemark. Si la logique est respectée, c'est France et Danemark qui passent en huitième. Mais bon, tu sais, la France, elle peut. Sur le papier, quoi, au moins.
Bah, je sais pas, parce que franchement, je trouve que en Europe, on en a déjà parlé, mais il y a beaucoup de mépris pour les pays sud-américains. Et puis déjà, ça arrivait en 2010 avec l'Uruguay, en disant ouais, il y a que 6 millions d'habitants ou je ne sais quoi. Enfin, on nous avait sorti des stats sur le PIB du pays, aucun rapport avec le football, tu sais.
On est d'accord.
Enfin, je dis pas que je te parle de ça, que tu m'as parlé de ça. Mais les médias font en sorte que, voilà, parce que c'est un pays du tiers-monde ou c'est un pays en voie de développement, je ne sais quoi, bah, ils jouent moins bien au foot. Il y a beaucoup d'idées.
Dans les années 70, même Rétro pourra te le confirmer, dans les années 70, même début 80, le Pérou, c'était une équipe qui était très redoutée. D'ailleurs, la France avait joué contre le Pérou en match amical, ils avaient perdu 1-0, 1-0 contre eux. Donc voilà, t'avais des Cabanias, t'avais. Ah, je me rappelle plus, il y avait un gardien aussi qui était très bon. Enfin voilà, c'était une équipe très très redoutée. Et voilà, certes, bon ben le Pérou a perdu de sa splendeur après dans les années 90-2000, mais non, faut surtout pas. C'est une équipe sud-américaine. Les Sud-Américains, ils ont le football dans le sang et ils peuvent faire des exploits, hein, de toute façon.
Et quand ils se retrouvent avec leur sélection, je veux dire, ils sont dix fois, ils sont même pas meilleurs qu'en club. Ouais. Et après, je regarde l'équipe du Pérou, Jefferson Farfana. Est un excellent, un très bon joueur, Paulo Guerrero, qui a réussi à jouer au mondial suite à une bonne décision des instances. C'est une équipe qui a beaucoup de talent, je dirais, et que ça sera. Il faudra pas faire le même type de match, sinon on risque d'avoir des problèmes.
C'est sûr. Donc le match, c'est jeudi prochain, quoi, hein, c'est ça? Ça va être jeudi.
C'est ça,
jeudi à 17h.
Tous les 5 jours, je crois. Ouais. C'est ça, tous les 5 jours, voilà.
Exactement. Donc on verra bien. Parlons du Hugo Lloris aussi, parce que bon, il a quand même été beaucoup décrié ces derniers temps. Même ce matin, ça parlait encore, est-ce que Hugo Lloris va réussir
c'est
à,
le
à, c'est, voilà, mais c'est exactement ça. Et finalement, sur le penalty, il peut strictement rien faire, mais il a sorti quand même un ballon qui était assez difficile. Il a fait son match et pour moi, il s'en sort bien. Il fait partie des meilleurs joueurs ce soir, quoi. Enfin, cet après-midi.
Il a répondu présent. Et il n'a pas été après en seconde mi-temps après le penalty. Il a pas été trop mis en danger après, tu vois, mais je trouve qu'il a fait son match, il était rassurant. Il s'est rassuré aussi.
Ouais, comme disait Barthez, à ce niveau-là, à très haut niveau en Coupe du Monde, t'as fait ton match quand t'as fait l'arrêt qu'il fallait pour éviter le but. Et le coup franc, enfin le centre qui arrive en première période, où Lloris va la chercher à ras du poteau, là, c'est l'arrêt qu'il fallait faire pour ce match-là. Il l'a fait. Après, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Il a assuré les dégagements en touche et les relances. C'est le principal. Il n'a pas fait de contrôle de cagade à la Ruffier contre le PSG. Voilà, quoi. C'était le principal. Hein. Je veux dire, il n'y a pas eu de gros danger non plus. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Hein. L'Australie, si vous arrivez à me citer l'attaquant de l'Australie, je vous donne 50€. Là. Mais il faut le trouver, quoi. Je ne sais pas lequel c'était parce qu'ils ont tous joué à 9 derrière. Donc,
ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, donc on verra bien par la suite, on verra bien déjà jeudi si la France va faire quelque chose contre cette équipe péruvienne. Mais pour le moment, c'est pas gagné. Je pense que pendant une semaine, enfin jusqu'à jeudi, ça va beaucoup jaser dans les journaux. J'ai pas regardé l'équipe non plus parce que ça a dû bien démonter quand même l'équipe à Deschamps. Ça a dû bien raconter des choses pas forcément bien sur cette équipe de France. Un peu à juste titre, je sais pas, mais c'est vrai que là, l'équipe de France, elle déçoit beaucoup. Hein. Je pense qu'avec une équipe comme on a, on se doit de gagner aisément des matchs comme ça. Je veux bien que les équipes, c'est plus des équipes faibles comme avant, mais quand même. Voilà.
Mais tu vois, je pense que tactiquement, je pense que Joseph sera peut-être d'accord avec nous, vu que lui, il était au stade. Alors, on lui passe un petit coucou.
Ah, d'ailleurs.
Je pense que lui, il a remarqué ça aussi, c'est que l'équipe de France qui a joué en 4-3-3 tout le match, ça l'a pas servi du tout. Il aurait fallu rajouter un milieu de terrain à un moment donné pour avoir plus de possession de balle et sacrifier un Dembélé dès le début du match parce que Griezmann, Mbappé, Dembélé, ça joue pas ensemble et ça attend les ballons. Donc voilà, c'est pas une solution pour les futurs matchs de l'équipe de France.
L'entrée Fekir a été intéressante, je trouve.
Ouais.
Il a gardé le ballon, il a provoqué des fautes, ce qu'il sait bien très bien faire. Ça c'est à l'OL,
ouais,
il bon a appris à bien
bon
faire
ça. Bah d'ailleurs, tu vois, toi aussi, Thibaut, t'as regardé le match avec des supporters et j'étais avec des supporters moi du sud de la France qui étaient en voyage. Et ils étaient contents de voir Fekir rentrer sur le terrain. Il y a eu beaucoup de soutien pour Fekir. Donc finalement, sur Paris, on est un peu, on n'aime pas trop, je veux dire, les joueurs du Sud comme Thauvin, etc. Mais ils sont très appréciés dans le reste de la France, ces joueurs-là. Moi, je retrouve quand même un soutien général pour l'équipe de France. Il va falloir, tu vois, là, ce que je retiens surtout sur ce match, c'est que l'équipe de France a gagné. Il faut la soutenir. Jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Même mis à part, même s'ils n'ont pas forcément bien joué, il faut les soutenir. Il faut arrêter de parler de ce match maintenant et puis passer
à
autre chose.
On doit être derrière cette équipe. Surtout que pour un match, c'est-à-dire, même si la France aurait gagné 5-0, on aurait dit oui, c'est très très bien, on est meilleur. Donc, c'est pas plus mal d'avoir remporté ce match difficilement parce qu'on pourra que s'améliorer après. Moi, je trouve que c'est pas. Et puis, de toute façon, on parlera des autres matchs, mais pour l'instant, à part la Russie qui a mis 5-0, tous les matchs ont été très accrochés pour l'instant. Les équipes, pour l'instant, il n'y a pas une équipe qui veut dire, à part je compare Russie-Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite était très faible, mais il n'y a que eu des matchs accrochés pour l'instant.
Ouais, c'est sûr. Ouais, voilà. Bah, d'ailleurs, on va parler des autres matchs et on va parler de ce magnifique match. Pour le moment, c'est le plus beau qu'il y a eu de cette Coupe du Monde. Tu vas me dire, ça a commencé depuis jeudi, mais voilà, ça fait deux jours que ça a commencé, mais bon. Portugal-Espagne qui a été franchement formidable. Il n'y a pas d'autre mot, ce match a été exceptionnel. Gabi, t'en as pensé quoi de ce Portugal-Espagne? C'est pour le moment, c'est le meilleur, quoi. Et ça peut être, ça risque peut-être d'être le, peut-être pas, on espère voir d'autres matchs aussi beaux, mais là, franchement, pour moi, ça, c'est un match de Coupe du Monde. C'est ce que j'attends dans une Coupe du Monde, c'est avoir des matchs de cette qualité-là, quoi.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un match qui ressemblait à une finale ou une demi-finale déjà.
C'est vrai.
Et bon, au niveau du groupe, ils sont pas loin de la vérité et surtout ils sont très réalistes au niveau surtout de l'engagement qu'il y avait pendant ce match, parce qu'on a vu des équipes vraiment se donner à fond. Alors j'espère pas que le Portugal ou l'Espagne vont en pâtir pour les matchs contre le Maroc ou l'Iran après. Mais physiquement, j'ai vu des équipes vraiment se donner avec des crampes à la fin. On a vu Ronaldo avec des crampes à la fin du match. On a vu d'autres joueurs aussi. Le grand Ronaldo, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde cette année, encore une fois.
Bon, puis, avec moi, ce qui s'est passé cet après-midi, de toute façon, ça peut que confirmer
qu'il est grand. Hier. Ah ouais, il a porté le Portugal à lui tout seul. Mmh. Parce que sans hier Ronaldo, l'Espagne aurait gagné, il n'y aurait pas eu photo. Pour moi, hier, je considère que l'Espagne aurait mérité complètement victoire. Et d'ailleurs, j'en discutais avec mon pote Felipe, que je salue, qui est portugais. Il m'a dit, honnêtement, on s'en sort bien, il a dit.
Ouais, on s'en sort bien, mais tu vois, c'est le jeu du Portugal. Donc finalement, c'est prévu au niveau tactique. C'est pas un éclair de génie de Ronaldo à chaque fois. Les mecs, ils jouent ensemble. Et par contre, en Argentine, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on attend que Messi fasse quelque chose.
Et voilà, exactement.
On donne le ballon et puis on sent que les autres ont peur de prendre leurs responsabilités.
Ouais. Mais magnifique Portugal, franchement, c'est pour moi, comme on en avait dit avec Nico, c'est une équipe qui est aussi forte défensivement qu'à l'Euro 2016, mais avec plus d'atouts offensifs.
Donc, et moi hier, j'ai trouvé le Portugal meilleur. Bernardo Silva a d'ailleurs raté son match, mais quand João Mário est rentré et Quaresma, c'est une équipe qui, Portugal, on croit qu'elle est une équipe que défensive, mais quand ces joueurs-là sont alignés offensivement, elle peut faire mieux le Portugal, je trouve. Donc ils ont été obligés par l'Espagne, contre l'Espagne, t'es un peu obligé de plus défendre. Regroupé. Mais c'est une équipe portugaise qui est largement capable de faire beaucoup mieux au niveau du jeu. Mais il y a des joueurs super joueurs intéressants, c'est certain.
Ah, c'est sûr. Mais vous voyez, pour moi, le match il se coupe en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a la première mi-temps où t'as le Portugal qui gagne et la deuxième période où t'as l'Espagne qui gagne le match aussi. Et je trouve que justement, quand tu parles de changement tactique, Thibaut, je pense que finalement le Portugal s'est trompé à un moment donné tactiquement parce qu'ils n'ont pas fait défensivement ce qu'il fallait pour continuer à jouer. Ils ont joué beaucoup trop bas et l'Espagne en a profité et ils ont tapé là où ça faisait mal avec Isco, Asensio et je pense que Iniesta, s'il avait été un peu plus jeune, l'Espagne aurait gagné. Mais voilà, tu sens que l'Espagne a un potentiel de jeunes joueurs qui va faire que l'Espagne va continuer à produire un jeu très collectif et en une touche de balle. Ils se sont un peu trop amusés, c'est ça. L'Espagne, à un moment donné, ils menaient 3-2. Ils ont un peu trop chambré en faisant des tiki-taka à droite à gauche au milieu de terrain. Ça a énervé les Portugais. On a vu Ronaldo envoyer, je sais pas mal de fois, l'arbitre. Il a pas reçu de carton jaune non plus. Et je pense qu'à ce moment-là, l'Espagne aurait dû marquer le quatrième, tu vois.
J'ai vu que Ronaldo s'est énervé. Je lui ai dit, Ronaldo qui commence à aller, je lui ai dit, il va pas en rester là. J'ai vu dans son regard, on a senti toute la domination, même sur le coup franc, etc. Il a.
On va sur le coup franc. Mais parlons-en du coup franc. Hein. Moi, le coup franc, dès que j'ai vu la posture qu'il avait, j'ai dit il y est. Je sais pas, mais pourtant, je suis pas un mec de vin comme ça qui prédit le but comme ça. Mais là, je me suis dit, avec l'attitude qu'il a, j'ai vu qu'il regardait bien le but. Et puis la posture qu'il avait, il a une posture assez bizarre. Il a remonté son short et trucs comme ça. J'ai dit
c'est
là.
Ça, oui.
Non, mais c'est vrai. Et là, j'ai dit il le met. Et franchement.
Mais De Réa, j'ai trouvé sur le coup franc, j'ai trouvé très mal placé quand j'ai vu la position de Réa. Ouais. J'ai vu sa position de départ, je lui ai dit il va la mettre à gauche du gardien. Je lui ai dit s'il la passe devant le mur, c'est but.
Ouais. Et puis lui, il la place, hein. Il frappe pas fort. Hein. Lui, il la place avec un petit coup de pied bien tendu. Il frappe pas forcément fort.
D'habitude, il frappe plus fort, il prend souvent du coup de pied. Il est vraiment. Et là, il a vraiment tiré. Pas Neymar, mais limite pas en feuille morte, vraiment, avec une souplesse de la cheville, c'était parfait, le coup franc était parfait.
Si vous vous rappelez, il y avait Forlan qui faisait ça très très bien avec l'Uruguay en 2010, il était très fort sur ça. Mais d'ailleurs, faudra parler des ballons, parce que là, les ballons crevés pendant...
C'est des ballons fabriqués en Chine ou quoi, là, je sais pas, c'est rendu... Et en plus, ils font beaucoup de pubs avec Wish, là, avec Pogba et trucs comme ça se trouve, c'est des ballons... c'est des ballons Wish qu'ils ont achetés, je sais pas, mais je trouve qu'ils tiennent pas le coup, ces ballons.
Tu vois, ça se rapproche de plus en plus des ballons de plage, et je pense que la structure est tellement fine que déjà les coups francs, les frappes, ça va donner cet effet-là. Et bon, je veux dire, c'est quand même grave d'avoir des ballons crevés en Coupe du Monde.
Ouais, c'est dingue, quoi. Dans ce cas-là, faut jouer avec un ballon corner, hein, ça sera mieux. Hein.
Ouais, waterproof, là,
Ouais,
Carrefour.
voilà, c'est ça. Non, mais,
Avec des
ouais.
gros carreaux.
Non, mais c'est dingue quand même. Là, ça fait déjà le troisième ballon qui est crevé, je crois. Il y en a eu un pendant le. Il y en a eu un qui était crevé pendant France-Australie. Il y en a eu un pendant Argentine-Islande. Enfin, c'est un truc de fou, quoi.
Ouais. Mais Derrea, tu vois, Thibaut, Derrea, l'erreur qu'il fait sur cette frappe de Ronaldo où il la prend du genou, elle tape son genou et rentre dans le but, mais c'est lamentable, quoi. Et Derrea, c'est pas sa première erreur de la saison, hein. Comment il peut être titulaire, ce gardien, en Espagne?
Bah, peut-être il a, là, il a raté son, mais c'est vrai que c'est, en début en sélection espagnole, je le trouvais beaucoup plus serein. Et puis après, c'est sûr que là, l'erreur l'a pas aidé, mais après, moi, je trouve qu'il faut pas en remettre en cause David Derrea. Je veux dire, je pense qu'à la base, je trouve que c'est un très bon. C'est un très bon gardien, c'est sûr que là il s'est trouvé sur le but. Après ça arrive, je veux dire, ça arrive. Il faut pas
ça
tout remettre en cause, je pense.
Bah vaut mieux que ça non, arrive en pas. Première, vaut mieux que ça arrive maintenant qu'en huitième de finale ou truc comme ça, parce que là pour perdre complètement confiance, il y a pas mieux quoi. Mais hier j'ai vu quelques pics là sur De Rea qui disait que c'était Karius qui était déguisé en De Rea en fait hier.
Ouais. Non mais moi j'ai un ami qui habite en Espagne, qui est espagnol bien sûr, mais il me disait que tu peux pas gagner une Coupe du Monde avec un gardien aussi faible. Et je lui parlais d'Areola juste derrière. Il m'a dit c'est la même histoire. C'est-à-dire que tu peux pas aller loin. Il y a trop d'erreurs qu'il faut rattraper avec ce gardien en fait. Et il le sait parce que lui, Derrea, si tu veux, c'est comme Nuno Lloris, on le suit depuis longtemps et il sait les erreurs qu'il fait pendant les matchs amicaux. Et il fait le même genre d'erreur en match officiel. Donc c'est quand même. C'est. Voilà, tu te retrouves à mener 2-1 contre le Portugal qui a rien fait pendant une demi-heure.
C'est ça.
Et tu dois revenir au score. Donc c'est
mais
compliqué.
Je
hein,
sais pas, je sais pas qui sont les gardiens remplaçants, mais quand tu regardes nous, nos gardiens à nous. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Hein. Quand tu vois Lloris, Mandanda et puis Areola, ils ont tous fait la saison qui est terminée. Ils ont tous fait une bourde. Au moins une, voire deux.
C'est vrai.
Donc voilà quoi. Hein. Mais le poste de gardien, maintenant, je trouve qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus de très très bons gardiens comme avant quoi.
Ouais, ah, c'est clair. Mais je crois qu'en Espagne, ils ont Pepe Reina et Caballero, il est argentin ou espagnol, je sais
Caballero
plus.
Caballero est argentin.
Argentin, ouais, donc c'est pas lui, c'est un autre.
C'est lui qui a gaulé d'ailleurs avec l'Argentine tout à l'heure. Il me semble que c'est Caballero qui a gaulé pour l'Argentine.
Ouais, mais non, c'est des gardiens du même niveau. Hein. C'est un peu comme en France, il y a très peu de différence entre les gardiens en France, c'est pareil.
Bah, il y a l'Allemagne, le Brésil, je dois citer les gardiens Alisson et Ederson pour côté brésilien et Manuel Neuer et puis Marc-André Ter Stegen qui sont des deux très bons gardiens. Donc,
Alisson, pour moi, il serait élu meilleur gardien de la Coupe du Monde, à mon avis. Hein. Parce que ce qu'il fait avec la Roma, c'est énorme. Énorme. Mais je vois pas comment il peut ne pas être élu meilleur gardien de la Coupe du Monde, sauf si le Brésil fait colle des tartines à tout le monde, hein, mais ils se prennent pas le but. Mais bon, on verra, quoi.
C'est sûr. On va parler d'Argentine contre l'Islande. Alors, voilà, l'Islande qui, pour la première fois de sa carrière joue en Coupe du Monde, hein, donc gros match tout de suite contre l'Argentine. Et on pensait que l'Argentine allait faire qu'une bouchée de cette équipe islandaise, et pourtant bah, l'Argentine qui a peiné et a pu ne faire qu'un match nul contre une très très bonne défense islandaise. C'est vrai que les Islandais au niveau défensif ça a vraiment été le top. Messi aurait pu ajouter un deuxième but sur penalty et il l'a loupé complètement en fait. Hein, et c'est pas la première fois qu'il loupe des penalties cette saison. Et donc bah, l'Islande qui crée la sensation pour le moment en faisant un partout face à l'Argentine. Du coup, je sais que t'as pas regardé le match, Gabi. Je vais t'interroger toi, Thibaut. T'en as pensé quoi de cette équipe islandaise?
Moi, j'ai trouvé très discipliné, un peu comme on a vu à l'Euro. Donc à voir à ce niveau-là, je suis pas tellement surpris. Mais là où je voudrais remarquer surtout, c'est que l'Islande a fait de l'Islande, mais l'Argentine a été très décevante. Parce qu'on parle tout à l'heure des Sud-Américains avec qui donnent un fond, etc. J'ai trouvé l'équipe d'Argentine trop dépendante de Messi. Quand un moment, ils avaient, je sais pas si t'as vu Nico, ils avaient des positions de frappe à faire. D'ailleurs, Omar Da Fonseca,
il était fou, lui.
Ils ont manqué de créativité, je veux dire. Il n'y a aucun joueur qui a pris une initiative de frappe, etc. À part Messi, je veux dire, on a l'impression qu'ils attendaient de Messi qui dribble 10 joueurs et qui marque. J'ai trouvé une absence de collectif côté argentin, et d'ailleurs je n'ai pas compris la non-rentrée de Lo Celso qui aurait apporté cette petite touche technique, etc. Cette passe, parce que voilà, Et voilà, voilà comme, ce que j'ai pensé du match.
Comme disait Gabi au début, maintenant le Portugal, il n'y a plus trop cette Ronaldo-dépendance. Malheureusement, l'Argentine a toujours cette Messi-dépendance. Et je pense que tant qu'il y aura cette Messi-dépendance, l'Argentine ne pourra pas y arriver. C'est ça le souci. Là, on a vu clairement Messi avoir tout le temps le ballon, essayer d'aller tout seul devant le but sans y arriver. Ils ont eu de la chance avec ce... Ils ont marqué le premier but. C'est eux qui ont marqué le premier but. J'allais dire sur penalty, mais finalement, c'est pas sur penalty.
Belle frappe d'Agüero, ouais. Quand il retourne bien, voilà. Qui met une belle frappe du pied gauche.
Belle frappe du pied gauche. Là, c'est vrai que l'Argentine, à ce moment-là, ils étaient vraiment, vraiment en forme. Et puis, il y a eu cette baisse de régime. Je sais pas ce qu'ils ont fait. L'Islande, qui a égalisé, qui méritait en plus cette égalisation. Et après, l'Islande qui a fait son boulot de défensif. Et l'Argentine est beaucoup trop timide devant le but, trop hésitant, voilà, comme tu disais tout à l'heure. L'Argentine, ils étaient dans la surface de réparation, et au lieu de frapper, ils préféraient passer. Il y a eu trop d'hésitation et ça a payé cash, malheureusement, pour l'Argentine, quoi.
Et si les Islandais allemands avaient bien joué le coup sur certaines occasions, je suis persuadé que l'Islande aurait pu, en y croyant un peu plus, gagner le match.
Il y aurait un véritable attaquant, un top scoreur à l'Islande. Je pense qu'ils auraient pu gagner le match, ouais.
Et puis je voudrais retourner côté islandais. C'est pas la première fois que vous le voyez, mais c'est le numéro 10, Ergudson, qui a été très bon dans ce qu'il a fait techniquement. C'est un joueur qui est très bon et puis qui a bien gardé le ballon, qui a su quand l'Islande était de faire les bons choix. J'ai trouvé une équipe très intelligente sur le plan tactique et puis. Ils avaient leur idée en tête, ils ont parfaitement respecté ce qu'ils avaient fait,
Alors le prochain match, l'Argentine contre la Croatie, c'est pas gagné, hein. C'est loin d'être gagné pour l'Argentine.
Parce que les Croates vont être aussi changés que l'Islandais avec de meilleures qualités offensives.
D'ailleurs, la Croatie là qui joue à 21h face au Nigeria, là je pense pas que le Nigeria fasse quelque chose cette année, ça peut être une surprise. Mais je vois bien la Croatie faire un bon premier tour.
Ouais. Sûrement. Mais ça va être pas mal, hein, Croatie-Nigeria, je pense.
Hein, ça va être sympa, je pense. Ouais.
Ça va être accroché parce que Nigeria va être. Je pense que physiquement, dans les duels, ils vont être pas mal. Ça sera pas un match aussi simple que l'on croit. Je pense que les Croates sont favoris. Mais après ce qu'on a vu en Coupe du Monde avec l'Islande, l'Argentine, ça a été plus accroché que l'on croit.
La Croatie, c'est une équipe qui a l'habitude de bien débuter ses compétitions par une victoire. Enfin, sauf en 2014 où justement là, ils avaient été un peu arnaqués par l'arbitrage. Mais à l'Euro, ils avaient été très bons, j'ai trouvé, en phase de groupe. C'est même régulièrement, je veux dire, Modric, tout ça, c'est des joueurs qui sont assez sérieux, qui se laissent
pas. Akitic, Perisic, c'est une très belle équipe.
Sérieuse.
Mais imprévisible. Du meilleur comme du pire.
Ouais. Ouais, voilà. Je pense que c'est une équipe qui déjoue assez rapidement quand ils sont menés au score par 2 buts d'écart. Ils ont du mal.
Oula. Il y a un petit souci là, on t'entend pas très bien là. Recommence ce que t'as dit parce que du coup ça avait coupé un peu là, ça a bugué un petit peu.
Non, je disais que c'est une équipe qui, une fois qu'elle mène au score. Déroule assez facilement et garde le ballon tranquillement, quoi. Alors que quand justement ils sont menés au score, ils ont du mal à revenir dans le jeu.
C'est vrai. Et d'ailleurs, vous avez un petit pronostic pour le match de ce soir?
Peut-être le 2-1 pour la Croatie.
Ouais.
Moi je vois un 2-0 ou 3-1 plutôt pour la Croatie, ouais.
Là, il y a un de nos auditeurs là qui nous écoute, et Camille là sur YouTube, qui voyait la victoire du Nigeria contre la Croatie 2-1. Pourquoi pas, ça peut être une surprise, hein. S'il suffit de mal entamer son premier match. Bon, moi je vois quand même la Croatie gagner 2-0, mais c'est vrai, ce serait pas mal de voir le Nigeria marquer, parce que j'aime bien voir les Nigérians à chaque fois danser après un but, quoi, tu vois, c'est toujours le folklore. J'aime bien les équipes africaines comme ça, là, ils rentrent sur le terrain en chantant, des trucs comme ça, c'est toujours sympa de voir ça, quoi.
Ouais, c'est ça la Coupe du Monde, on est d'accord. Hein. C'est la fête de tous les pays, et puis avoir des choses différentes un peu au niveau culture foot.
Bon, après, le gros souci, c'est les médias qui se font toujours des fixettes sur le Nigeria de 94. Ils l'ont fait aussi avec l'Arabie Saoudite, en disant ouais. « Oh, l'Arabie Saoudite, faut faire attention, on se souvient en 94. » Mais ouais, mais c'est plus le même foot qu'avant. C'est plus pareil, ouais. Ça n'a plus rien à voir maintenant. Faut arrêter de toujours se faire des fixettes.
Le vivre dans le passé.
Bah voilà, ils le font trop avec l'équipe de France aussi, en disant ça fait 20 ans, il y a 20 ans, on gagnait 3-0. C'est fini, ça, faut arrêter.
Toutes les équipes ont certains ont régressé, d'autres ont progressé. Donc c'est le football n'est pas la même, la vitesse du football n'est pas la même.
C'est autrement. Mais voilà, mais
non,
voilà.
Mais il y a un gros souci, hein. C'est vrai, Nico, t'as raison, il y a un gros souci dans les médias au niveau de la culture de l'ancien football et du football moderne. Il y a
bon, ça c'est français, c'est très français ça, hein. C'est très français malheureusement.
Les journalistes ont du mal. Hein.
Bah, les journalistes, ils ont du mal et voilà, on vit trop dans le passé. Je veux bien qu'on parle de l'équipe de France qui a gagné il y a 20 ans. Bon, c'était sympa le match contre la FIFA, mais en France, le souci, on a le gros souci de... Ils le font avec Marseille. Tous les ans, ils nous rabâchent ceci. Bon, on sait qu'on a gagné. Je veux bien quand tu fêtes de temps en temps des matchs, mais ce serait bien. Tu le fais tous les 10 ans si tu veux, mais pas tous les ans, quoi. Ça, c'est chiant.
Faut passer à autre chose. Il faut penser à l'avant.
Voilà. Donc, bon. Bah, on verra bien, hein, de toute façon. Donc là, il y a toujours 0-0 entre le Pérou et le Danemark. On verra bien ce que ce match va donner. Alors, pour le moment, la France est première avec 3 points. Mais suivant le match là entre le Pérou et le Danemark, on verra bien ce que ça va donner. Bon, ben, vous avez quelque chose à rajouter
Moi, je voulais parler un petit peu de l'Uruguay hier. Et on a remarqué quelque chose. Mauvais match de Messi. Doumtiti, Suarez, le Barcelone. Et même Piqué, j'ai trouvé certains joueurs du Barça un peu entre guillemets empruntés dans Aubameyang en début de saison. Mais je voulais revenir sur Cavani, qui hier a vraiment a fait un match différent qu'il fait du PSG. Je sais pas si vous avez vu Gabi, Nico. Dans la façon de jouer, c'est lui qui était à l'origine des actions offensives du Uruguay. Limite presque comme un 10 à un moment. J'ai trouvé son match très intéressant. Et puis il aurait mérité de marquer au moins un but, mais voilà, je voulais souligner le très bon match de Cavani hier.
Il y a un penalty pour le Pérou. Dans les dernières secondes de la première période. Alors j'ai pas du tout vu ce qu'il y avait comme faute. Bah, je vous propose de suivre ça, puis bah, du coup on se quittera après. Hein. Je pense qu'on a fait le tour des matchs de la journée, ouais. Et puis d'hier aussi. Donc on se donnera rendez-vous demain peut-être pour parler des autres matchs, hein, de toute façon.
Ouais, bien sûr.
Toujours à la même horaire, 18h.
Ouais, donc, de toute façon, il y a le Brésil qui joue demain en plus.
Ouais. Attention, pénalty. Oh là, complètement au-dessus. Complètement au-dessus. Ça, c'est complètement raté. C'était pour le Pérou qui avait la possibilité de marquer le premier but. Mais là, il a complètement frappé au-dessus. C'est complètement loupé. Voilà, de toute façon, c'est la mi-temps. Et nous, on se quitte sur ces paroles. Merci les gars d'avoir participé à cette émission.
Merci Nico, merci Gabi, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés.
Voilà, et on se donne rendez-vous demain 18h pour une nouvelle émission. Allez, salut les gars.
Salut, ciao.